7h33, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. Merci d'être là, notre chum Marc Desgagnés d'M2 Gaming et en studio. Salut mon ami!
Comment ça va, mon beau bonhomme?
Ça va très bien. Hey, j'ai plein de questions à te poser. La semaine dernière, on a jasé, toi et moi, des différentes consoles, que ce soit Xbox ou encore PlayStation ou les autres. Puis on a parlé aussi des ordinateurs. Puis je te posais, tu sais, pour les jeux où tout le monde peut jouer ensemble, tu me disais que c'était les gens qui étaient sur ordinateur qui étaient un peu plus avantagés. Exact. Et là, il y a des gars qui m'ont écrit, je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, mais ta télé aussi peut être hyper importante pour le gaming.
Ben, c'est comme je dis souvent, c'est un ensemble de tout parce que ça va beaucoup avec ce qu'ils appellent le taux de rafraîchissement d'image. Fait que si tu as un taux de rafraîchissement d'image qui te permet ou bien, qui est bloqué à 30 images à la seconde versus quelqu'un qui est 60 images par seconde, puis même que là sur les PC qui sont des PC high-end de haute performance, là tu vas monter à du 120 et plus. Fait que ça veut dire que tu sais dans une seconde, tu as encore plus de possibilités, c'est tellement rapide que là ben c'est ça, ceux qui jouent avec mettons tout optimum, là, t'sais, le plus rapide possible, ben, qui va être avantageux.
OK. Mais ça, les compagnies sont au courant de ça. T'sais. Est-ce que, je sais pas moi, M2 Gaming, à un moment donné, vous allez vous pencher sur les télés idéales pour faire du gaming? Est-ce que ça pourrait être un prochain sujet pour vous autres?
Ben écoute, peut-être, mais c'est quand même très vaste. Il y a beaucoup de téléviseurs. Puis évidemment, faire des tests de télé, c'est pas évident parce que moi, je le sais parce que j'ai des amis qui ont déjà vécu, mettons, avec Samsung, des choses comme ça, où des téléviseurs leur étaient envoyés pour faire les tests. Puis tu sais, faut que tu aies le temps, faut que tu sois capable de l'installer chez vous. Ça demande de la logistique autour de ça. Ça a l'air niaiseux à dire, mais ça demande de la logistique. Puis ça demande du temps aussi pour faire ça. Fait qu'à travers tout le reste, tu vas avoir une télé. Si quelqu'un, exemple, teste des télés, mais il dit « Moi, je vais tester des télés avec des jeux de tir, justement, de type FPS, puis il ne fait que ça », ben c'est sûr que c'est correct pour lui. Mais quand on fait généraliste dans tous les jeux, ben ça commence à être un peu... Déjà qu'on teste les jeux, ça devient difficile aussi de tester tout le matériel, là.
Mm-hmm. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais dans le temps, il y a des gens qui louaient le IMAX pour jouer sur, sur PlayStation.
je me rappelle, ça fait quoi, une dizaine d'années passées là, qu'on avait vu ça, là, louer le IMAX ou louer des salles de cinéma.
C'était Charles qui était là-dedans.
Ouais, c'est ça.
J'imagine que Charles était un gaming aussi à l'époque.
Oui, mais ça, c'est intéressant. Mais ça se fait encore des genres de conventions, de gens qui se rassemblent à un endroit, ils ont loué une salle, ils apportent tout leur matériel.
Ah, c'est
ils sont commandités même maintenant par des entreprises de nourriture ou encore de boissons énergentes et autres, là, pour triper ensemble. Ça me fait... Il y a un nom exact pour ce genre de rassemblement-là. C'est sûr qu'il y a des auditeurs qui vont nous le donner au 88-971-1021, là, mais ça prend de plus en plus d'ampleur. Là.
Ben, le fameux e-sports, là, t'sais, qui est vraiment des jeux de combat, toutes sortes de jeux comme des jeux FPS, des choses comme ça. Tu as des tournois vraiment... T'sais, ils remplissent des stades. Là. Fait que, imagine le centre Vidéotron plein à pleine capacité avec des écrans où tout ce que tu t'en vas faire, c'est assister à des équipes qui s'affrontent comme ça. Mm. Puis ces gens-là, il y en a plusieurs qui sont devenus des multimillionnaires là, dans le jeu. Là. T'en as beaucoup
c'est ça,
sur
mais
la planète.
Qu'est-ce qu'on va dire à nos... Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants, Marc? Parce que souvent, là, les TikTokers se permettent de donner leur salaire.
Ouais.
Les YouTubers se permettent de donner leur salaire.
Les Twitchers.
Là, tu dis à ton enfant... Mon gars, dans la vie, pour réussir, il faut bûcher dur. Faut travailler extrêmement fort. Puis là, ben, tu vois le YouTuber qui a de l'air un peu farniente, qui joue à des jeux vidéo, puis qui gagne des millions et des millions de dollars. C'est complexe quand tu abordes cette question-là avec tes enfants.
Pis, c'est complexe.
J'essaie de leur dire, c'est une personne, c'est deux, trois personnes sur 8, 9 millions qui peuvent se permettre de dire, hey, moi, je joue aux jeux vidéo, je me filme, je parle, puis je réussis à bien gagner ma vie avec ça. Mais de convaincre tes enfants de ne pas s'en aller là-dedans, peut-être plus de s'en aller vers quelque chose comme avocat, comptable, joueur de hockey pour le Canadien de Montréal.
Mais quand ils réussissent, puis avec l'ampleur que ça prend, tu pognes ton 2 minutes en tant que parent, puis tu te dis, bon, une chance que je l'ai laissé faire, là.
Y a ça.
Mais c'est comme Yannick, tu dis, c'est sûr et certain qu'il faut que tu fasses comprendre à tes enfants que c'est vraiment, tu sais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, comme on dit, hein. Surtout comme des Twitch, des choses comme ça, t'as des milliers de personnes qui vont faire du Twitch, mais combien là-dedans
plans,
vont en vivre?
Ça peut être ça.
Pardon?
Ça peut être deux plans de vie.
Ben oui, c'est ça, tu le fais un peu, ça a l'air niaiseux à dire, comme nous chez M2 Gaming, là, on le fait de façon hobby, fait qu'à un moment donné, oui, avoir eu... Il y a une portion de travail dans ça. Il y a une portion de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Il y a une portion de chance. Il y a une portion de beaucoup, beaucoup de choses qui s'enlignent. Il y a les astres là-dedans. Fait que, tu sais, c'est comme les artistes. Les artistes, là, combien d'artistes que tu connais qui vont jouer de la musique dans des petits groupes, dans des petits bars locaux ou bien dans leur cave qui ne seront jamais découverts, mais qui sont extrêmement bons et extrêmement talentueux? Fait que, tu sais, c'est
très
bon. Il y en
a point,
d'autres que des fois, ben ils émergent, tu te dis, ben voyons, pourquoi ça pogne, tu sais?
Ouais. Non, ça, c'est un très bon point. Puis je regardais des petits documentaires sur YouTube. C'est des équipes qui étaient formées, exemple, pour jouer à des jeux de combat par équipe.
Puis
les gars se louaient des maisons ensemble pour pouvoir s'entraîner à tous les jours dans le but d'aller au fameux tournoi à la fin de l'année. C'était tous des gars qui étaient commandités.
Là. Finalement, c'était une entreprise, là, la maison.
Ouais.
C'était le bureau de l'entreprise.
La meilleure invitée que tu pourrais avoir, là, c'est Stéphanie Harvey, Miss Harvey, qui était longtemps, je pense qu'elle a plusieurs championnat de CS Strike ou CSGO, quelque chose comme
CSGO.
Ouais. CSGO, exact. Puis vois-tu, puis elle disait, là, elle a parlé souvent dans ses entrevues, puis elle avait un entraînement quasiment militaire. Là. C'est au niveau de tout, là, la forme physique, la nourriture, le sommeil,
mental.
Le mental, c'est tout. Fait que ça a l'air beaucoup plus, on dit, il va jouer à des jeux. Non, c'est plus que ça. Là.
Moi, elle m'a enlevé beaucoup de stéréotypes et de préjugés par rapport à ça. Pas qu'il était coulé dans le béton, mais elle m'a ouvert les horizons vers une réelle carrière puis beaucoup moins de jugement par rapport à ça. Là. Ils sont même plus en santé puis en forme physique pour certains que d'autres. Là. Le stéréotype du gars qui mange chez Chip en s'essuyant sur son chandail blanc en bobette dans son salon parce qu'il joue à des jeux vidéo, ça, c'est plus dans les foyers de tous et chacun, mais pas auprès des athlètes de jeux vidéo. Là.
Non, non, ça, avec les chips au ketchup, ça arrive un peu partout. mais c'est de voir à quel point ces gars-là qui étaient dans cette maison-là, bien sûr qu'il y avait des parties. Là, je veux dire, t'as une piscine, t'as des jeux vidéo, il y a de l'alcool. Les gars s'entraînaient sérieusement, mais ce qui me faisait halluciner, c'est qu'il y avait des psychologues qui avaient étudié en psychologie spécialement pour justement assister. Ça ressemblait à des psychologues sportifs, puis ils assistaient ceux qui jouaient à des jeux vidéo à tous les jours, puis il y avait une formation spéciale là-dedans les pousser encore plus loin. Mais tu sais, je veux dire, on est ailleurs ici au Québec. Là. Moi, si j'avais un psychologue pour essayer de me convaincre qu'un jour je vais être bon à NHL 2024, moi, ça me coûterait cher. Là.
Mais c'est peut-être justement d'être capable de prendre la perspective. Ça serait intéressant, ça, comme invité, Yannick. C'est vraiment... Moi, ça me fascine, honnêtement.
Je parlais avec Bruni Surin. Parce que moi, un psychologue, quand j'étais jeune, un psychologue, c'est quand t'étais en problématique.
Ouais.
Après ça, j'ai appris que tous les athlètes olympiques pouvaient être suivis par des psychologues sportifs. Et ces gens-là, ils parlent pas de dépression ou tout ça. Eux autres, ils te disent « voici quoi faire ». Voici comment penser pour réussir à avancer encore plus.
Quand tu étais en vacances, on a fait une entrevue avec dans Marceau Midi avec un psychologue sportif. Là, on peut la reprendre. Puis ce qu'il disait, en gros, lui, puis il avait travaillé avec plein d'athlètes olympiques, c'est aussi comment bien gagner puis comment bien perdre, d'apprendre comment avoir l'attitude en conséquence de tout ça. Tu te souviens, Thomas, il était intéressant.
Ah, vraiment.
Hein?
C'était vraiment, vraiment cool. C'est un gars qui était allé aussi aux Jeux olympiques, qui avait pris le temps de rencontrer des athlètes, qui avait énormément d'expérience là-dedans. Hyper intéressant. Cette entrevue-là, si je ne me trompe pas, Bruno Ouellet, si je ne me trompe pas de son nom rapidement.
Oui, c'est ça. Puis chaque sport nécessitait une intervention différente. Puis pas dans si tu fais du patin, ton mental doit être d'une manière ou d'une autre. Non, c'est dans la réflexion derrière le sport. En tout cas, c'est fascinant.
C'est ça. Moi, puis la génération, même génération que Marc, là, nous autres, c'est quand on jouait à Duck Hunt qu'on apprenait à se contrôler. Puis on essayait de ne pas tirer la manette dedans à la télé.
Le fusil, le beau fusil. Il ne fallait pas viser les chiens et les canards avec le fusil. En le tirant dans la TV.
Exact.
C'est pas pareil.
Mon Dieu, qu'on a sacré après ce jeu-là, Duck Hunt. 418-971-1021. C'est une bonne question. Ça. Qu'est-ce qui vous a fait le plus rager comme jeu quand vous étiez jeune?
Les textos vont exploser.
OK. Moi, il y a Duck Hunt qui m'a fait rager. Il y avait aussi Q-Bert. J'ai jamais réussi à jouer à Q-Bert. J'ai jamais compris le concept. Dig Dog, j'aimais ça. Pac-Man, ça, c'était assez simple. Là. C'était ordinaire. Mais je pense que c'est Duck Hunt
Oublie pas que les jeux de notre époque, là, de là 40 ans, là, c'est parce que l'idéologie derrière n'était pas la même qu'aujourd'hui, mais pas du tout. T'sais, dans le temps, c'est pas pour rien que si vous rappelez, dans les jeux, regardez, allez tout voir les jeux rétro, on avait des pointages souvent dans le haut de l'écran. Pourquoi? Parce que c'est ça. Quand on tuait des ennemis, tu faisais telle chose, ça donnait des points, puis le but, c'était de faire des points. Maintenant, ce genre de concept-là, là, il est très, très, très rare, on va dire, dans les jeux d'aujourd'hui. T'sais, tu vas jouer à Final Fantasy, tu vas jouer à Gran Turismo, tu vas jouer à des choses... Il n'y a pas de points là-dedans. Il n'y a plus de points. Là. C'est comme effacé. Ça n'existe plus, ce concept-là.
C'est ça. Quand on parlait de Madame Harvey, tantôt, on parlait de Counter-Strike. Ouais. C'est ce que Dan me mentionne.
C'est ça, CSGO. Counter-Strike Go.
Counter-Strike Go. Voilà. OK. Sinon, on parle des sujets avec la belle gang d'M2 Gaming. Décès de Akira Toriyama.
Ben oui, après ça ce matin, je pense qu'il est... Ben là, c'est sûr, c'était au Japon, donc eux autres, c'est un peu plus avancé que nous autres. Ça doit être aujourd'hui dans la journée qu'est décédé M. Akira Toriyama, 68 ans, qui est décédé d'une accumulation, on appelle ça un hématome sous-dural aigu. Apparemment que c'était une accumulation de sang, soit dans le cerveau ou entre, justement, entre les couches qui a la boîte crânienne puis la peau, le cuir chevelu, si tu veux. Fait que ça peut être suite à des lésions quelconques, de toutes sortes de choses. Fait que ça a l'air que ça a été comme foudroyant, puis là, ben, tout le monde a appris ça. C'est un peu triste parce que quand même, oui, 68 ans, c'est pas extrêmement vieux, mais tu sais, il a quand même contribué à des grandes, grandes choses. Tu sais, les Dragon Ball, puis tous les mangas comme ça, c'est lui qui est derrière ça. Si vous pensez, il a fait quand même des choses dans Chrono Trigger, il était dans les Dragon Quest. Tu sais, il a fait beaucoup, beaucoup de choses. Là, j'en nomme quelques-uns, mais il y en a des centaines. Donc, c'est une grosse, grosse perte pour celui qui apportait ce type de personnage-là, si tu veux, vraiment ordinaire, puis hors de l'ordinaire, puis explosif là, dans les mangas japonais. Fait que une autre perte qui a attristé beaucoup de gens de la sphère de jeux vidéo.
68 ans, c'est très, très jeune. Yes. Sinon, Helldivers 2 continue de faire son bout de chemin?
Oui, Helldivers, ça fait partie des jeux belles découvertes de 2024 à date, qu'on s'attendait pas à ça. Puis même moi, le premier qui n'est pas un gamer en ligne, je déteste les jeux en ligne. Vous ne me verrez pas jouer à des FPS. Les Call of Duty, je déteste jouer avec ce genre de toxicité, de communauté. Ah non, je déteste. Moi, tu ne me feras pas aller là, justement, contre des campeurs, parce que je vais sacrer tout dans la télé, puis... ça va me coûter trop cher. Donc, moi j'évite ça.
Ce jeu-là, mais c'est long à être... C'est long à être bon. Comprendre puis à être bon. Là.
C'est ça. Sauf que Helldivers, oui, c'est long dans un sens, mais c'est un jeu qui, contrairement à du PVP, le player contre player, joueur contre joueur, ben là, tu tombes vraiment à un type de jeu qui va plus être en escouade. Ben, tu peux jouer seul, remarque, là, mais c'est comme pas fait pour ça en tant que tel. Ça se fait, mais c'est plus... plate. Tu vas jouer plus avec, mettons, 2, 3 à 4 personnes en escouade. Puis là, tu vas être lancé sur des planètes où tu vas aller débarrasser ces planètes-là de des genres de créatures qu'appellent les Terminides, ou sur l'autre, c'est des cyborgs.
Des envahisseurs.
Puis là, ben, tu fais avancer, si tu veux, on va dire la Fédération de la Super Terre. Puis pense à ça, là, la genre
la
de...
La Super Terre!
L'idéologie en arrière, là, pense un peu, je sais pas si tu te rappelles des films Starship Troopers, là.
Oui.
Bon, ben c'est un peu le même genre. Fait que t'arrives avec ce genre de créature-là qui veut juste te déchiqueter en morceaux pis te le guette. Fait que c'est super trippant. Puis quand tu joues avec des gens, moi, je te le dis, je déteste les jeux en ligne. Pourtant, j'ai accroché. Tu peux aller là, jouer avec juste tes amis ou jouer avec n'importe qui. Il y a des gens, si tu laisses ta partie publique, ben qui vont se joindre carrément à ta campagne, qui vont embarquer à tout moment dans ta campagne, qui vont venir te donner un coup de main. Puis vu que tu joues pas contre les autres, mais avec les autres, tu sais, c'est un jeu coopératif. Ben, je te dis que c'est vraiment le fun. À date, là, j'ai pas pogné personne qui vient puis que, tu sais, tu dis, ah, il va me faire des coups de cochon, parce que oui, là-dedans, il y a des choses qu'on appelle du friendly fire. Ça veut dire que, mettons, Yannick, que je joue avec toi puis que je tire un coup de 12 dans ta direction, tu vas manger les dommages, tu sais. Donc, il y a beaucoup de stratégies qui viennent là-dedans aussi, parce qu'il faut que tu fasses quand même attention à comment tu vas te comporter, à comment tu vas tirer, comment tu vas déployer tes choses, tes attaques qui vont venir, parce que tu as des attaques de ton vaisseau en orbite autour de la planète qui va lancer des attaques orbitales. Mais là, tu veux pas être dans le champ de quand tu vas... Tu sais, tu veux pas être en dessous quand ça arrive, parce que ça te fait un méchant dommage. Fait que ce jeu-là, c'est vraiment trippant, puis c'est rare, parce que ce jeu-là, ça fait 8... ça fait pas 8, mais c'est sorti le 8 février, donc ça fait un mois aujourd'hui que c'est sorti. Puis dans les ventes, c'est encore, tu sais, ça marche au bout encore dans les ventes. Puis habituellement, bien, dans les ventes de jeux vidéo, tu sais, au bout de la 2e-3e semaine, ça commence déjà à être décliné. Puis dans le cas de Helldivers, c'est le contraire, ça continue à monter. Fait que, puis à cette heure, je te dirais que les problèmes auxquels il faisait face au départ, qui étaient les problèmes de serveur, parce que vu que c'est un jeu qui est en ligne seulement, bien, il faut que tu sois connecté tout le temps. Puis au départ, bien, il manquait un peu de serveurs. Je pense qu'ils se sont fait prendre les culottes par terre parce qu'il y a eu trop de gens qui ont trippé sur le jeu et qui voulaient se joindre à la campagne. Bien là, tu n'étais pas capable de te brancher. Maintenant, ils ont corrigé ça. Ça va super bien. Puis ils apportent même du contenu supplémentaire. Hier, il y avait une campagne justement qu'il fallait que tu ailles délivrer ou protéger une planète parce que c'était comme l'industrie, si tu veux, qui va fabriquer des exosquelettes EXO45, qui est un genre de gros robots dans lequel que tu vas pouvoir embarquer ton personnage puis que tu vas faire des dommages encore plus puissants. Puis là, bien, vu qu'on a réussi, parce que même moi, j'ai participé, fait que vu qu'on a réussi, bien là, justement, ils vont déployer la mise à jour pour faire en sorte que ces genres de robots-là soient disponibles aux joueurs en jeu. Mais tu sais, il apporte plein d'affaires comme ça. Ils ont apporté des genres de... Ils appellent ça des hasards planétaires. C'est que là, maintenant, t'as des pluies de météorites, t'as des genres de colonnes de feu, des tempêtes de feu. Fait que là, t'es en train de jouer. Non seulement, faut que tu checkes les ennemis qui sont assez coriaces, parce que le jeu peut être très difficile, ben là, faut que tu checkes en plus tes affaires-là, parce que quand tu manges une météorite sur la tête, ça paraît en jeu, c'est ça laisse pas de chance du tout, tu recommences.
C'est de la météo cosmique.
Un petit peu, oui. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Je pense que ça paraît.
Tantôt, t'as parlé des films... Ouais, tantôt, t'as parlé des films Starship, c'est ça?
Ouais, Starship Troopers.
Hey, écoute, j'ai en deux secondes, j'ai mélangé Starship Trooper avec la gang de Spaceballs.
Hey boy! On est à... Non, c'est pas Rick Moranis. Ouais, c'est ça, casque noir. Non, on n'est pas là-dedans, mais pas du tout. Mais l'humour peut se ressembler à certains petits points.
Ghost of Tsushima débarque enfin sur PC, mon ami. C'est le 16 mai. Hein?
Yes, puis ça, ben, je connais encore une fois comme... Écoute, les grosses franchises de PlayStation qui sont, tu sais, qui étaient vraiment exclusives, soit PlayStation 4, PlayStation 5, bien souvent, ça a toujours été, tu sais, on a hâte, c'est plate, on peut pas jouer à ça sur Xbox ou sur d'autres plateformes. Sauf que Sony, depuis quelques années, ont commencé à apporter ces grosses franchises-là sur PC aussi. Puis là, bien, ce qui fait en sorte qu'ils voient bien que ça vend très bien. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est qu'on ramasse des sous par terre, hein? Ils sont pas fous, hein? Surtout dans les périodes qu'on vit en ce moment, là, tout le monde court après les sous. Donc là, ils vont apporter Ghost of Tsushima qui va arriver sur PC le 16 mai prochain. Puis là, ben, c'est Sucker Punch qui est vraiment le studio qui était derrière ça à la base, avec Nixxes Software qui va faire le portage pour PC. Puis là, ben, ceux qui jouent sur PC, vous allez être quand même vraiment grillés, parce que si vous avez un équipement vraiment à la fine pointe, si vous avez des résolutions d'écran, le genre très large, du 21.9, 32.9, des configurations à 3 écrans, à 48.9, des choses comme ça, bien, ça va tout être supporté. Fait que le DLSS 3 là-dedans, le AMDR, FSR, regarde, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vont être supportées, ce qui fait en sorte que le jeu va vraiment être très, très hot. Puis, connaissant Nixxes Software, je pense que le portage va être très, très bien fait, puis ça va se vendre comme des petits pains chauds, c'est sûr.
Dans Ghost of Tsushima, il y a beaucoup de cinématiques, hein?
Oui, c'est un jeu narratif quand même, mais je trouve que c'est pas, ça fait pas partie des jeux narratifs où les cinématiques, ils te font trop décrocher. Je trouve que, tu sais, ils sont pas trop longs, ils sont juste corrects. Tu retombes dans l'action, tu as beaucoup de types d'action. Tu peux décider d'y aller quand même, tu sais, d'attaque de front. Tu peux développer ton personnage plus comme ça, ou tu peux y aller plus en genre de... Vraiment plus, comment tu appelles ça? Je sais pas, je veux dire le terme, tabarouette, là. Camouflé, si tu veux, là. Furtif, c'est ça que je cherchais. Fait que tu peux y aller comme ça, puis je te dirais que même ça dépend. Il y a des places dans le jeu, comme l'île qu'ils ont ouvert, qui était un DLC sur PlayStation 4, Plystation 5.
Ouais.
Ben, style-là, c'est sûr que quand t'allais là, puis t'essayais d'y aller de front, puis ton personnage était pas assez élevé en termes de niveau, ben, tu trouvais le temps long un peu parce que les ennemis étaient très coriaces. Donc, tu sais, c'est pas un jeu qui est un Souls-like, là, dans le tempérament, mais il y a quelques petits moments dans le jeu où tu peux avoir besoin d'apprendre à maîtriser comme faut ce qu'ils appellent des stances, là, des genres de statures de ton personnage pour les formes d'attaque qu'il y avait un peu qu'on voyait dans les jeux avec le Japon féodal, qui tiennent leur sabre bien élevé au-dessus de la tête, à hauteur du corps ou par le bas. Bien là, ça va donner des effets différents. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est un jeu qui était vraiment, vraiment, vraiment très bien fait, très hot. Donc, sur PC, les gens vont être contents de voir ça.
Moi, dans les dernières années, là, c'est le jeu que j'ai entendu le plus parler, Ghost of Tsushima, là, pour la qualité des images.
Oui, hein? Ben, tout, oui, c'est beau. Je pense que c'est un des plus beaux qu'ils ont fait, ça, c'est sûr et certain. Donc, il n'y a pas à dire, sur PC, avec tous les avantages qu'on va pouvoir rajouter dedans, ça va sûrement être encore vraiment impressionnant. Là.
Nine Dot Studios devient finalement éditeur.
Ben oui, ben Nine Dot Studios, qu'il y en a qui disent, mais ça me dit quelque chose. Ben Nine Dot, c'est un studio de Québec, ici, en Basseville, qui ont fait le jeu Outward. Outward, qui est un genre de jeu de rôle, mais un jeu de rôle. Pensez, mettons, à Final Fantasy, oui, c'est des jeux de rôle dans ce type-là, à monde ouvert. Sauf que l'idéologie derrière le jeu de rôle est assez spéciale, parce que t'es un genre de nobody, hein, tu sais, quelqu'un qui pas de genre de capacité extraordinaire, qui fait rien. T'es vraiment comme Yannick, là, tu décides, moi, je pars, je m'en vais dans la nature, dans la forêt, puis je vais me débrouiller. Mais tu rencontres un ours, ça se peut que t'en manges une sincère. Bien, c'est un peu pareil dans les jeux Outward. Donc, tu sais, le but de ça, c'était l'approche vraiment de dire, bien, t'es pas le gars, ce qu'il appelle overpowered, là, où tu vas tout défaire parce que t'es almighty, ouais. telle personne. Non, là, tu vas arriver dans le jeu, puis il faut que tu fasses attention à comment t'approches tes ennemis, puis comment tu vas faire tes choses, parce que t'es vraiment, vraiment, vraiment vulnérable à tout. Fait que ça avait été vraiment génial de la part de Nine Dots. Nine Dots ont fait ça. Puis là, ils ont annoncé, parce que c'était un simple studio, ils ont annoncé cette semaine qu'ils allaient devenir éditeurs en plus, au lieu d'être juste studio. Donc, ils vont prendre des jeux de d'autres studios, ils vont les aider à développer ces jeux-là, puis à les publier pour faire en sorte qu'on les connaisse. Fait que d'un, ils ont annoncé Outward 2, ce qui est une bonne chose, parce que les fans de Outward 1 ont vraiment aimé ça. Puis après ça, ben, ils vont en avoir deux d'autres que là, j'ai pas pris en note, malheureusement. Je pense que c'est Lost in... je me rappelle plus du nom. Mais il y a deux autres jeux qui ont annoncé, qui sont de deux studios différents, qui vont être derrière pour faire l'édition. Fait que c'est quand même pas pire. Je trouve ça spécial d'un studio habituellement qu'on appelle indépendant, qui souvent s'auto-publie lui-même pour ses jeux, mais qui là décide de le faire pour des jeux d'autres. Je veux dire, c'est pas Sony, c'est pas Microsoft, c'est pas fréquent. Là. Fait que c'est vraiment, je lui lève le chapeau notre ami Guillaume Boucher-Vidal, qui est le PDG là-bas. Il y a des couilles en acier.
Des couilles en acier. Marc Bénonnier d'M2 Gaming, t'aimes-tu les petits papillons?
Ben, ça dépend.
Mettons que j'enverrais toute ta famille chez B-Fly, là, tu l'accepterais-tu si je te faisais participer au concours? Mais t'as pas le droit, là.
Je suis déjà allé, moi, les aux éditeurs.
T'es déjà allé, t'as aimé ça, j'imagine?
Ben oui, c'est correct comme expérience, moi, j'ai trouvé ça le fun. Moi, j'aimais ça même dans le temps de l'autre place, là.
Ouais, c'est de toute beauté, B-Fly, ouais. Aux Galeries de la Capitale. J'invite tout le monde à aller faire un tour. C'est la semaine de relâche. Des fois, ouais. On se cherche des activités supplémentaires. Vous êtes au Salon de l'Auto de Québec, vous avez fait le tour. Vous dites, ah, il me reste encore une petite heure à combler avec les enfants. Je veux leur mettre des beaux souvenirs dans la tête. Ben, on va vous aider. Tom, B-Fly, comment on fait pour gagner des billets?
Ça va être super simple. Donc, B-Fly, c'est où? C'est aux Galeries de la Capitale. C'est rendez-vous, comme tu l'as dit, Yannick, pour la relâche. C'est des dômes avec des papillons à l'intérieur. Il y a également un nouveau labyrinthe de miroirs qui est situé là-bas pour cette édition-là. Pour réserver vos places, c'est le bfly.ca, le bfly.ca. Donc, on fait tirer un laissez-passer familial pour remporter tout ça. Et comment vous allez faire? Ça va se passer par texto. 88-971-1021. C'est la journée internationale des droits des femmes. On va y aller avec « Faites un compliment pour Pascal CV ». On y va de même.
Oh!
OK? Compliment pour Pascal CV.
C'est moi qui commence.
C'est toi qui commence. Vas-y,
ouais.
Marc.
Ah, c'est... Vas-y, Marc.
Moi, là, si, mettons, j'avais 20 ans de moins, là...
Compliment, ça, Marc!
Hey! Enfin!
Ça
bonjour,
la
bonjour, hey, Pascal!
Salut, mon ami!
C'est ça que
salut,
ça fait quand t'es pas là, tu me manques.
Donc, oui, c'est ça. Hey, Marc Dégagné d'M2 Gaming, c'est toujours un plaisir de te jaser. Comment on fait pour vous rejoindre, M2 Gaming?
Ben, écoute, on a un Facebook M2 Gaming, puis un X, hein, un X Twitter, puis évidemment, ben, venez donc faire un tour sur notre chaîne, allez voir M2 Gaming Canada, abonnez-vous, puis vraiment, aimez les vidéos, participez, commentez, on vous répond tout le temps, on aime ça. Faire de la communion avec la communauté.
Salut Marc, c'est toujours un
merci.
Plaisir.
Salut!
B-Fly, 418-971-1021, 418-971-1021, si vous voulez gagner vos billets. Puis je répète ce que Tom a dit, il faut faire un compliment à Pascal dans cette journée internationale du droit des femmes. On fait une courte pause?
Pas de la crouse, là, hein?
Mais non, mais qu'est-ce que tu veux?
C'est pas un compliment.
Tu peux pas empêcher un homme d'aimer?